Non, merci, mais merci Flo pour ces présentations. Eh, vous êtes nombreux, c'est génial. Bonjour à tous, ça va bien? François, est-ce qu'on peut viser un petit peu juste les spots de lumière? Yes, j'ai l'impression d'être devant Dieu qui m'éblouit, tu sais. Mais, ouais, on y est presque. Ok, cool. Ah, ça a changé de couleur, c'est cool. Non, nice. Question pour vous, est-ce que vous connaissez l'expression qui dit on n'a qu'une seule chance de faire, ça c'est ma fille qui crie normalement, je crois. Salut Blanche. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Vous connaissez cette expression? Yes. Ma femme, elle l'aime beaucoup, surtout quand il s'agit de la présenter à des gens qu'elle ne connaît pas. Au début, ça fait 5 ans qu'on est mariés, comme il l'a dit. Enfin, ça va faire 5 ans en décembre. Et au début, notre mariage, j'ai croisé un ami d'enfance, je n'avais pas vu depuis genre 10 ans. Et ma femme, elle commence, était là, et j'ai complètement oublié de la présenter à mon ami. C'est pour ceux qui sont au début de leur mariage, c'est une chose à pas faire, hein, c'est important pour les demoiselles. Et du coup, je discute avec mon ami, puis j'ai complètement oublié de la présenter. Puis quelques jours après, elle me dit, franchement, tu m'as brisé le cœur là. J'avais l'impression que t'avais juste honte de moi. Puis moi, j'ai complètement oublié, ok, j'ai eu des oublis comme ça arrive. Qui est d'accord qu'en tant qu'homme, des fois, on a des oublis qu'on ne contrôle pas? Ok, c'est bon, on est excusé, c'est bon, on fait pas exprès. par contre, sur les dates, je suis quand même assez bon, donc ça se rattrape. Donc c'est super important pour elle. D'ailleurs, elle, quand elle me présente, elle me met mal à l'aise tellement elle me présente bien, comme si j'étais parfait. Ça fait plaisir, mais ça met mal à l'aise pareil. C'est le fait de bien présenter tout ça. Et l'apôtre Jean, quand il écrit son évangile, a pour but de présenter Jésus parfaitement. D'ailleurs, il a choisi les miracles, les récits, les histoires exprès pour que les gens comprennent qui est réellement Jésus. Puis on voit son but dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Voici ce qui est dit. Le texte va s'afficher à l'écran. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le but de Jean, c'est pas seulement de croire en Jésus, c'est de croire que Jésus est le Messie. La différence est super importante. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une génération qui habite à Éphèse, de jeunes chrétiens qui n'ont pas connu Jésus physiquement. Donc c'est à la fin du 1er siècle, dans les années 80, 90, on ne sait pas trop. Mais c'est une jeune génération de chrétiens qui n'a pas connu les premiers apôtres et influencée par la pensée grecque, mais qui connaît toutes les prophéties qui ont été faites sur Jésus dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties sur le Messie à venir, sur le Sauveur du monde. Et c'est pour ça que Jean insiste énormément sur le fait que Jésus est bel et bien celui qu'on attendait. Et pour un juif de l'époque, c'est super important, parce que pendant des centaines d'années, on attendait ça. Pendant des centaines d'années, on avait notre espérance dans quelqu'un qui devait venir changer notre vie, changer la donne, nous libérer. Et on voit ça dans différentes rencontres. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, ça commence avec Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Première affirmation que Jésus est celui qu'on attendait. Ensuite, c'est André avec son frère Simon, que Jésus va appeler Pierre par la suite. André va voir son frère et dire « Hé, on a trouvé le Messie que le Saint-Testament décrit ». Et ensuite, c'est Philippe et Nathanaël. Tout ça juste dans le chapitre 1. Philippe qui voit Nathanaël qui va dire « Hé, celui que Moïse et les prophètes ont décrit, c'est ce Jésus que je te présente. » Et nous, on va s'intéresser à cette rencontre entre Jésus et Nathanaël. Mais avant ça, il faut comprendre comment les juifs de l'époque, comment les jeunes de l'époque voyaient le Messie à venir. Parce que c'est une chose d'attendre quelqu'un, mais c'est une autre chose d'avoir la bonne vision de celui qu'on attend. Et la vision du Messie à venir, voici c'était quoi pour les juifs de l'époque. Le Messie devait être un guerrier conquérant qui allait anéantir les ennemis d'Israël. Il devait venir dans sa gloire et fermer la bouche de tous les grands de ce monde. Il devait venir imposer son royaume physique par la force, en écrasant les autres et en dominant sur le monde pour donner à Israël la gloire qui lui est due. Voici ce que le Juif a en tête quand il dit « Super, le Messie est là, en plus on est dominé par les Romains à l'époque, l'empereur, Jules César, etc. Jésus va tous se défoncer. » Voici ce qu'ils ont en tête. Mais le problème, c'est que Jésus va venir pas mal ébranler cette vision-là. Et c'est intéressant aussi de voir que cette vision qu'ils ont du Messie est directement liée à la vision qu'ils ont de Dieu lui-même. Un Dieu redoutable, qui fait trembler les nations. Un Dieu qui n'aime pas les pécheurs. Un Dieu qui se met en colère facilement et qui tue des gens. Un Dieu qui n'aime que son peuple parce qu'il est saint, mis à part. Et un Dieu tellement grand qu'il ne peut pas être proche de l'homme. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. La vision est directement liée au Dieu qu'ils ont en tête. Et Jésus, quand il va venir, va nous faire, juste à travers cette rencontre entre Nathanaël et Jésus, 4 révélations sur le réel caractère de Dieu. Donc on va voir ça ensemble. Le premier caractère qu'il décrit, c'est Jésus révèle l'humilité de Dieu. Ce n'est pas souvent un terme qu'on associe à Dieu. Jean, chapitre 1, versets 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Philippe met toutes les chances de son côté pour bien présenter Jésus. À l'époque, pour mettre en avant une personne, on disait d'où est-ce qu'il venait, de quelle ville il venait et de qui descendait-il, qui était son père. Et c'est ce qu'il fait. Donc là, il est en mode, c'est bon, j'ai fait ma part, il devrait croire en moi. Sauf que quand on regarde la réaction de Nathanaël, on s'aperçoit qu'il a manqué quelque chose. Nathanaël lui dit, il est super ton gars. Mais par contre, il vient de Nazareth, c'est compliqué. Pourquoi il pense ça? Parce qu'à l'époque, Israël était divisé en deux parties. La Judée au sud, avec Jérusalem, c'est là où tout se passe. Le temple de Dieu est là, les fêtes juives, les théologiens de l'époque sont ici. Tous ceux qui connaissent la loi viennent d'ici. Et au nord, on a la Galilée. La Galilée, c'est multi-ethnique. C'est là où personne ne veut aller pour apprendre à connaître Dieu. C'est là où on va pour faire de l'argent, mais ce n'est pas là où on va pour apprendre la loi. Et d'ailleurs, il y avait comme une forme de racisme super forte à l'époque. On disait, les gens de la Judée disaient des gens de la Galilée que ce sont des gens qui ne connaissent pas la loi, donc en remettant en question leur salut. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas la loi. Et Jésus, Nazareth, vient de là-bas. C'est fort. Et dans la tête de Nathanaël, c'est impossible. Il dit, non, je sais très bien comment les gens de la Judée, comment les pharisiens ont l'image de la Galilée, donc c'est impossible que le Messie vienne là-bas parce que lui-même vient d'y. Il est en train de dire à Philippe, non, moi je viens de là-bas. Je sais tout ce qu'on m'a dit parce que je viens de la Galilée. C'est impossible que Dieu ose s'humilier autant. Impossible. Impossible que le Dieu a voulu s'incarner chez moi, là d'où je viens. Et des fois, on pense ça. Des fois, on est en mode, c'est impossible que Dieu veuille juste prendre part à ce que je vis actuellement. Impossible que Dieu ose juste prendre du temps pour écouter ce que je vis parce que ça n'a rien à voir ce que je vis par rapport à d'autres qui vivent des choses extraordinaires. Non, Philippe pense ça. Mais pourtant, Jésus a grandi là-bas. Et c'est intéressant de voir que, en fait, Jésus n'est même pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. D'après la prophétie, l'Ancien Testament disait que le serviteur, le descendant du roi David allait naître à Bethléem, qui se trouve en Judée, fait que c'est bon, là il part bien. Mais par contre, Dieu a décidé de le faire grandir à Nazareth, dans une des villes les plus petites de l'époque, les plus méprisées de l'époque. Et Jésus, dans toute la vie qu'il a vécue, n'a fait que créer les sentiments contraires auxquels les Juifs s'attendaient par rapport au Messie. C'est Philippe Yancey qui l'explique, journaliste et auteur chrétien, que j'aime beaucoup. Voici ce qu'il dit. Jésus donne l'image d'un Dieu humble. Les gens de l'époque s'attendaient à ce que le Messie vienne revêtu de gloire, à l'image de Salomon, de toute sa richesse. Mais en réalité, il est venu revêtu d'humilité jusqu'à passer presque inaperçu. Jésus, de 0 à 30 ans, n'a même pas fait de bruit, alors que c'est le Fils de Dieu. Deuxièmement, Jésus nous donne l'image d'un Dieu accessible. Pour les gens de l'époque, le Messie devait ressembler au Dieu que personne ne peut voir sans périr, alors qu'en réalité, il est apparu sur terre comme un nouveau-né qu'on devait prendre dans nos bras. C'est fort. Alors que c'est une adolescente de 16 ans qui devait prendre soin du Fils de Dieu et de Dieu lui-même incarné. Et dernièrement, Jésus nous donne l'image d'un Dieu perdant. Le Messie devait venir victorieux en écrasant les ennemis des Juifs, mais il est venu dans des conditions horribles et a grandi dans une ville qui ne faisait que rabaisser sa réputation. Jésus est venu habiter parmi nous et est venu être l'un d'entre nous. Et si Jésus devait venir au Québec, il serait certainement allé dans une ville, je ne sais pas si vous connaissez, une ville du style Lac Poulain. Vous connaissez la ville du Lac Poulain? Qui connaît la ville du Lac Poulain? Je suis le seul à la connaître, je suis trop content. La ville du Lac Poulain, ça se trouve dans les Chaudières-Appalaches, c'est l'une des 10 villes les plus petites au Québec. Personne connaît cette ville. Mais Jésus, s'il devait venir au Québec, il serait certainement allé dans une des villes comme Lac Poulain. 138 habitants, 1 km carré de superficie, personne ne connaît. Mais Jésus serait venu ici parce que Dieu a voulu qu'il vive dans des conditions pour savoir ce que tout le monde puisse vivre, ce que les gens les plus méprisés de l'époque puissent vivre, puissent ressentir. Jésus a grandi parmi les gens qui étaient considérés comme des illettrés, des gens intellectuellement inférieurs à la norme. Et Jésus a grandi parmi eux alors que c'était Dieu incarné. Donc Jésus nous révèle l'humilité de Dieu. Deuxièmement, Jésus nous révèle le Dieu qui te connaît. Jean 1, verset 47-49. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus interpelle Nathanaël sur un trait de caractère. Et en fait, littéralement, il va juste lui dire, « Ok, voici un Israélite qui dit ce qu'il pense. Il l'a fait par rapport à Nazareth. Non, je ne peux pas croire que le Messie vienne de Nazareth. » Puis il dit, « C'est bien, je mets en avant ça. Je veux que tu sois au clair avec tes émotions et je veux que tu sois vrai avec moi. » Et en même temps, il s'approche de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même un petit doute. Il dit, « Ok, peut-être que Philippe, je le connais, c'est mon ami. Peut-être qu'il a raison. Je vais quand même aller voir c'est qui ce Jésus de Nazareth. » Donc là, il s'approche et Jésus met ça en avant. Super, tu dis ce que tu penses. T'es au clair et t'es à l'aise avec moi à être ouvert, à ouvrir ton cœur. Est-ce que t'as déjà eu peur d'être vrai avec Dieu ? Sur tes doutes, sur ta colère, sur tes incompréhensions, sur peut-être la colère que tu as envers Dieu. Nathanaël vient de rabaisser Jésus, il dit non, tu ne peux pas venir de Nazareth, c'est impossible, impossible que tu t'humilies autant. Et Jésus, il dit, il met en avant ça, il fait, c'est super, je suis content que tu l'aies dit, parce que c'est ce qu'il y a sur ton cœur. Et Jésus nous invite juste à travers ce verset à être vrai avec lui, à lui partager tout ce qu'on a. Il veut qu'on soit personnel avec lui, comme lui-même est personnel avec nous. Et quand on regarde la suite, Nathanaël réagit d'une manière, « Ok, mais comment tu me connais ?» Donc il confirme que, « Ouais, c'est vrai, il n'y a aucune ruse en moi, puis je dis ce que je pense. Mais comment tu me connais ? Est-ce que c'est Philippe qui t'a parlé de moi ? Est-ce que c'est mes amis autour ? Parce que Jésus, c'est facile de passer pour un prophète si tu as demandé des informations autour de toi. Tu sais, il a quand même un petit, « Ok, il y a un truc bizarre là qui se passe, mais qui t'a parlé de moi ?» Puis Jésus lui répond, « Non, personne ne m'a parlé de toi. Je n'ai pas besoin de ça parce que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et là, c'est super puissant. Pourquoi ? Parce que le figuier, à l'époque, représente plusieurs choses. Les Juifs, à l'époque, allaient à l'ombre sous le figuier pour prier, pour méditer, pour étudier la parole. Mais aussi, le figuier, à l'époque, représente notre chez-nous, représente notre routine, notre intimité, tout ce qu'on fait que personne ne voit. Et en plus, dans le grec, c'est super intéressant, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec, et des fois, on manque quelques petites nuances. Et le verbe « voir », quand Jésus dit « je t'ai vu », littéralement, ça veut dire rencontrer quelqu'un, parler avec, visiter quelqu'un. Donc quand Jésus dit ça, il est en train de dire à Nathanaël, j'ai pas besoin qu'on me parle de toi parce que tu as vécu telle affaire dans ta chambre quand tu étais en train de pleurer. Moi, j'étais là. Et là, certainement qu'il a cité des situations personnelles et c'est pour ça que Nathanaël lui dit tout de suite après, ok, tu es vraiment le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël puisque personne ne peut connaître ce que j'ai vécu si ce n'est Dieu. Et Jésus, j'avais vraiment ça à cœur, Jésus peut-être veut parler à quelqu'un ce matin, peut-être que ça fait des semaines que tu es tout seul chez toi, tu crois personne te voit, puis tu vis des affaires compliquées et tu dis mais où est Dieu ? Et Jésus veut dire, sous ton figuier, peu importe à quoi ressemble ton figuier, sous ton figuier je te vois et je suis là. Il disait à Nathanaël, quand tu es en train de prier sous le figuier, quand tu es en train d'étudier la Torah, et là quelque chose t'a parlé, c'est moi qui t'ai parlé en fait. Quand tu as vécu telle affaire et puis tu as l'impression d'être tout seul, ma main était sur ton épaule. Et j'étais là. Et en plus, dans tout ce que tu ressentais, je ressentais la même chose. Parce que Jésus a vécu toutes les affaires qu'on a vécues et Jésus aujourd'hui ressent tout ce qu'on ressent. Jésus est un Dieu qui te connaît. Jésus révèle le Dieu qui te connaît. Troisièmement, Jésus révèle la présence de Dieu. Jean 1, verset 50-51. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Quand Jésus explique le ciel ouvert, les anges descendre, etc., Nathanaël sait très bien de quoi il parle. Pourquoi ? Parce qu'il fait référence à Genèse 28, verset 12-13, la vision de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on va la lire. Jacob est en marche vers une ville et là, il est fatigué, décide de dormir. Et il a un rêve, il a une vision super importante. Voici ce qui est dit. Genèse 28, verset 12-13. « Il fit un rêve. Une échelle, ou un escalier selon les traductions, était appuyée sur la terre, au sommet et touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi. » Et à tes descendants. Dans la vision de Jacob, il y a une échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et à l'époque où Moïse écrit, parce que Moïse a certainement écrit les 5 premiers livres de la Bible, à l'époque où Moïse écrit, dans les temples mésopotamiens, qui étaient la plupart des temples de divinité à l'époque, il y avait souvent un escalier ou une échelle dans les temples pour permettre aux dieux de descendre et se faire adorer par les humains. Fait que Jacob comprend cette vision. Ok, l'échelle, c'est-à-dire que Dieu, la présence de Dieu par les anges, etc. Et c'est ça. Et Jésus, ce qui est fou, c'est que Jésus s'approprie cette vision. Il explique à des gens qui connaissent la vision que, en fait, cette vision, c'est moi. mais en faisant quelques petites différences. Voici les différences qu'il y a entre la vision de Jacob et ce que Jésus dit. Dans la vision de Jacob, Dieu reste en haut. Il manifeste sa présence par les anges qui descendent. Dans ce que Jésus dit, le Fils de l'homme est en bas. Dans la vision de Jacob, une échelle fait le lien entre le ciel et la terre. Dans ce que Jésus dit, il n'y a plus d'échelle. C'est lui l'échelle. C'est lui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Dans la vision de Jacob, le lieu de la vision devient la maison de Dieu. Plus tard même, il va l'appeler Bethel, de maison de Dieu. Et même, il y avait un portail pour séparer le territoire où Dieu manifeste sa présence et le reste des lieux géographiques. Mais Jésus dit, non, il n'y a plus de portail, la maison, c'est moi. Partout où Jésus allait, la présence de Dieu se manifestait. Et c'est ça qui est fou, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de frontières. Dans la vision de Jacob, les nations seront bénies par sa descendance. Et Jésus est la descendance. Jésus est la descendance de Jacob par qui toute la terre peut avoir accès à Dieu, peu importe sa nationalité, peu importe si tu viens de la Galilée, peu importe si tu viens du lac Poulain, peu importe si tu connais la loi, peu importe qui t'es, peu importe ton passé, peu importe ce que tu vis sous le figuier actuellement. Jésus donne accès à la présence de Dieu, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as vécu. Donc Jésus s'approprie cette vision et nous révèle qu'il est lui-même Dieu. Parce qu'il manifeste la présence de Dieu. Quatrième point. Je vais appeler les musiciens juste à revenir. Verset 51. On va juste relire. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Juste dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, il y a plus d'une dizaine de noms qui est attribué à Jésus. Et Jean veut vraiment présenter Jésus sous toutes les facettes, sur son caractère, sur qui il est, sur les prophéties qu'il accomplit. Et parmi ces noms, il y a le Messie, le prophète, l'agneau de Dieu, celui qui baptise de l'Esprit, l'enseignant, le Christ, l'élu de Dieu, le Nazaréen, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, et je suis sûr que j'en ai manqué. Et dans le dernier verset, Jésus s'approprie lui-même le terme « Fils de l'homme ». Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Fils de l'homme, ça fait référence directement à Daniel chapitre 7, où Daniel a une vision, il voit la fin des temps, tout ça, et il voit un homme qu'il appelle le Fils de l'homme, l'ancien des jours, celui qui a autorité sur toute chose, celui qui va juger les nations. Et Jésus s'approprie ce terme-là, et dans tout l'évangile de Jean, la majorité du temps où Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme, il va tout le temps l'associer à sa glorification. Et là, c'est super intéressant. Pourquoi ? On va lire d'ailleurs un verset qui parle de ça. Jean 8, verset 28. Jésus s'adresse à des pharisiens et puis à des juifs. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'enseignait. » Quand Jésus dit « Quand vous aurez élevé », il parle de la croix. Et dans tout l'évangile de Jean, la croix est associée à ce moment de gloire, à son heure, qui est venu. Puis Jésus est en train de dire, parce que les Juifs en face de lui ne croient pas qu'il est le Messie, puis il est en train de leur dire, c'est pas grave, parce que quand vous allez me crucifier, vous allez reconnaître que je suis Dieu. Il est en train de dire, vous allez reconnaître que moi, je suis. C'est le même terme que Dieu a utilisé au buisson ardent, quand Dieu s'est présenté à Moïse, Yahweh. Il est en train de dire, ok, vous croyez pas en moi maintenant, mais c'est pas grave, parce que la plus grande révélation de qui je suis, la plus grande révélation de qui est Dieu, t'as juste à regarder à la croix. Jésus révèle la passion de Dieu. Jésus révèle, et la croix révèle, que Dieu t'aime. Et c'est la plus grande révélation de la Bible. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, met l'emphase sur Jésus, et Jésus met l'emphase sur le moment où il va être crucifié, en train de mourir pour tes péchés, pour tes fautes, pour mes fautes, pour tous les péchés de l'humanité présents, passé, futur, il est en train de leur dire la meilleure image que tu peux avoir de Dieu, c'est de regarder à la croix, avec les clous plantés dans les mains, dans les pieds, en train de dire Père, pardonne-leur. Et peut-être que tu avais une image en venant ici de Dieu, d'un Dieu inaccessible, un Dieu un Dieu qui doit venir de la Judée, un Dieu qui, il peut pas être né à Lac Poulain, il devrait être né à Montréal si Dieu venait au Québec. C'est pas possible. Peut-être que tu avais cette image de Dieu-là, un Dieu qui, sous le figuier, personne ne voit, personne ne s'intéresse à moi. Et Jésus dit, non, sous le figuier, j'étais là. Et si tu ne me crois pas, regarde à la croix Et à la croix, moi, j'avais en tête toute la souffrance que tu as vécue. J'étais en train de la ressentir. À la croix, j'avais en tête toutes les erreurs que tu as faites et toute la honte que tu ressens actuellement. Et je suis mort pour ça. Je suis mort pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. La croix est la plus grande révélation de qui est Dieu. Il y a quelques mois de ça, je passais un moment à prier, puis j'ai eu à cœur de prier pour une de mes belles-sœurs, la sœur, une des sœurs de ma femme. Et puis j'ai comme à cœur de lui écrire un petit message d'encouragement. Puis là, je prie, je fais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ?» Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, j'improvise, mais là, ça a marché. Puis je ressens vraiment « Ok, dis-lui que je l'aime énormément. » Puis moi, je trouve ça basique. Tu sais, je me dis « Ok, bon. » Je l'envoie. Puis quelques heures plus tard, elle m'écrit, elle me dit « Oh, beau frère, merci pour ton message. J'étais justement en train de jeûner et prier. Et là, tu m'envoies ça, c'est fou. » Puis moi, je lis ça. Puis pendant quelques jours, j'y repense. Je me dis « Mais, tu sais, elle a jeûné et prié. » Et puis elle reçoit juste le fait que Dieu l'aime. Mais elle le sait déjà que Dieu l'aime. Je me dis, c'est quand même basique comme encouragement. On sait tous que Dieu nous aime. Pas vrai, Flo, tu sais que Dieu t'aime. Mais voilà. Et j'y repensais pendant plusieurs jours. Et c'est comme si, je méditais vraiment là-dessus. Puis c'est comme si Saint-Esprit est venu me dire, fait, Jérôme, en fait, t'as rien compris de la vie. Toi. T'as absolument rien compris. Et c'est comme si j'avais cette pensée de... La plus grande révélation que tu peux avoir, c'est de comprendre, de recomprendre, de recomprendre, de recomprendre et de réaliser à nouveau que Dieu t'aime. Parce qu'au plus tu réalises que Dieu t'aime, au plus tu es transformé. Au plus tu réalises que Dieu t'aime, au plus tu l'aimes. Au plus tu lui obéis. Au plus tu réalises que Dieu t'aime, au moins tu juges les autres. Parce que tu es le pire des pécheurs. Au plus tu réalises que Dieu t'aime, au plus tu as envie d'aimer les autres. Tu as envie de t'impliquer. Au plus tu as envie de juste donner ta vie pour Dieu parce qu'il l'a donnée pour toi. Et quand j'ai compris ça, je fais, boy, ok. Et toute la Bible pointe vers ça. Toute la Bible pointe vers le Dieu qui s'incarne, qui vit la vie parfaite que nous, on n'a pas pu vivre, qui meurt à notre place. Et tout ça pour nous dire que, hey, mon enfant, je t'aime. Alors qu'il était en train, avec sa couronne d'épines, alors que son sang était en train de couler, alors qu'il souffrait, Dieu était joyeux parce qu'il dit, au moins, je vais permettre à chaque être humain de pouvoir être en relation avec moi et qu'il comprenne que je l'aime. Et je l'aime à un tel point que j'ai donné ma vie pour toi. Pour moi. Il n'y a pas de plus grande révélation de qui est Dieu que la croix. Et avant qu'on prenne le chant à la croix, je me prosterne. Peut-être que certains pensent, oh, Dieu là, je sais qu'il m'aime, mais il a détourné son regard de moi. Sous mon figuier là, je suis tout seul en ce moment. Et Jésus veut juste te rappeler, non, sous le figuier, je te vois. C'est pas juste que je t'ai vu, c'est je te vois actuellement et je suis avec toi. Et si tu regardes juste les yeux vers moi, tu vas comprendre que ma présence est là. Et peut-être que certains pensent, Dieu peut pas comprendre ce que je traverse. À travers la vie de Jésus, alors qu'il a vécu dans les pires circonstances que personne pourrait vivre, il dit, non, j'ai tout vécu ce que tu traverses en ce moment. Ce que tu ressens, je le ressens. Et parce que je suis passé par là, je suis à la même place pour te secourir. Parce que je suis Dieu et je ressens ce que tu ressens. Et peut-être que certains pensent aussi, non, je suis rendu trop loin pour que Dieu intervienne. Impossible. Impossible que Dieu m'aime encore avec tout ce que j'ai fait. Et Dieu veut juste te dire, ok, ben regarde à la croix alors. Je ne pouvais pas faire plus. Je ne pouvais pas faire plus que de donner ma vie pour toi. Je ne pouvais pas faire plus que te permettre d'être en relation avec moi, de te donner mon esprit afin de pouvoir être en relation à chaque jour avec moi. Je ne pouvais pas faire plus. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Et c'est suffisant. Ce que Dieu a fait à la croix, c'est suffisant pour qu'à chaque jour, tu puisses tenir, pour qu'à chaque jour, tu puisses être renouvelé, pour qu'à chaque jour, tu puisses passer du temps avec lui et puis retrouver la joie de vivre, pour qu'à chaque jour, tu puisses faire une différence dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton voisinage. C'est suffisant. Et pour qu'à chaque jour, quand l'ennemi va venir te dire que non, Dieu t'aime plus, non, c'est suffisant pour qu'à chaque jour, tu puisses te rappeler qu'à chaque jour, Dieu t'aime et qu'il a le même amour qu'il a eu quand il est mort pour toi, il y a 2000 ans. Jésus ressent la même chose. Et je veux juste te dire ce matin qu'il... Tu fais sa joie. C'est toi son trésor le plus précieux. C'est toi, c'est moi, chaque être humain sur terre. Il est venu sur terre pour ça.